Bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'IAP pour cette conférence de la série Une question, un chercheur. Nous sommes très heureux de pouvoir vous accueillir à nouveau dans cet amphithéâtre après une année blanche due au Covid et en même temps de pouvoir proposer une diffusion en ligne de cette conférence. Alors, je crois qu'il y a, sur l'annonce, il y avait une petite erreur. Hein, c'était marqué mardi 3 février. Bien sûr, il s'agit du jeudi 3 février. Et voilà, donc nous pouvons, pour compenser un petit peu le fait que nous sommes autorisés à avoir seulement 40 personnes dans cet amphi, on va compenser un petit peu avec une diffusion en ligne. Et j'espère que les internautes sont nombreux. Alors, aujourd'hui... oui, effectivement, vous faites attention de respecter les consignes là, hein, en occupant l'espace le mieux possible de façon à... Voilà, vous respectez, merci. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Guillaume Michel, hein, qui va nous faire cette conférence. Donc Guillaume... a été élève de l'ENS et puis ensuite il a effectué une thèse de physique au département de physique de l'ENS et ensuite il est parti à l'étranger 2 années aux USA comme c'est souvent le cas pour les jeunes qui veulent devenir chercheurs et puis ensuite après il est revenu et donc il a rejoint Sorbonne Université sur un poste de maître de conférence donc au laboratoire Jean Leron d'Alembert. Alors Guillaume travaille sur les ondes de surface et puis sur les systèmes hors d'équilibre, donc il cherche à caractériser au mieux. Hein, et aujourd'hui, il va nous présenter une conférence sur les vagues scélérates. Alors quelques précisions à propos des questions. Donc on prendra des questions dans cet amphi à la fin de la conférence. Et puis, pour les personnes qui suivent en ligne, eh bien, vous avez la possibilité de transmettre des questions par le chat. Donc, on va essayer de suivre le mieux possible ce que vous envoyez et puis de répercuter, de transmettre à Guillaume les questions au fur et à mesure. Évidemment, pas toutes, on sera obligé de faire une sélection. Voilà, Guillaume, c'est à toi.
Merci à vous d'être là. Merci aux techniciens et techniciennes pour la retransmission. Alors, comme l'a dit Patrick, ça fait maintenant 10 ans que j'effectue des recherches en mécanique des fluides, mais c'est seulement récemment qu'avec des collègues, nous nous sommes intéressés au problème des vagues scélérates, dont je vais vous parler ce soir. Alors, pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, les vagues scélérates sont des vagues très hautes qui arrivent dans l'océan de manière soudaine et imprévisible et qui peuvent endommager, voire détruire des bateaux ou des installations offshore. C'est un sujet sur lequel on sait encore assez peu de choses et ce que j'aimerais faire ce soir, c'est vous présenter les questions auxquelles on tente de répondre et la manière que l'on a d'approcher le sujet. Alors pour introduire ça, on va revenir 2 siècles en arrière et parler de Jules Dumont-d'Urville. Alors à cette époque, on a déjà une idée assez claire de l'allure du monde, mais certaines zones éloignées de l'Europe et difficiles d'accès, comme les pôles où l'Océanie demeure mal connue. Et pour y remédier, on organise des missions d'exploration scientifique dont le but est de cartographier ces zones. Jules Dumont-d'Urville est l'un de ces capitaines qui gère une mission d'exploration scientifique. Et en 1826, le roi de l'époque, Charles X, l'envoie avec 80 hommes à l'autre bout de la Terre pour cartographier les abords de l'Australie. Il suivra le trajet que vous voyez à l'écran et reviendra 3 ans plus tard avec un très grand compte-rendu, dont voici les premières lignes. Aujourd'hui, le véritable but des missions scientifiques est de compléter la géographie des côtes imparfaitement figurées et surtout d'assujettir au moyen des chronomètres la position d'une foule d'îles et d'écueils. Alors, en effet, quand vous voyez son compte-rendu, il s'agit d'une succession de coordonnées d'îles en mer et il parle de chronomètre car c'était l'outil utilisé pour déterminer leur localisation. En effet, si vous êtes perdu en mer, vous pouvez assez facilement trouver votre coordonnée nord-sud, la latitude, en attendant que le soleil soit au plus haut dans le ciel et en mesurant l'angle qu'il fait avec l'horizon. Par contre, pour la longitude, coordonnée est-ouest, c'est beaucoup plus difficile et il est nécessaire de savoir à quelle heure précisément le soleil est au plus haut, d'où l'utilisation des chronomètres. Alors, je vous parle de ce voyage car alors qu'il est au sud du Cap de Bonne-Espérance, durant le trajet aller, Jules Dumont-Durville et ses marins à bord du bateau l'Astrolabe se trouvent pris dans une tempête intense qu'il décrit élégamment dans son journal de bord à l'entrée du 29 août. « Jamais je n'avais vu une mer aussi monstrueuse, je ne croyais pas même qu'en aucune circonstance l'équilibre des eaux pût être renversé à ce point. » Il va plus loin et donne des informations sur les vagues les plus hautes qu'il a rencontrées, parlant de lames formant de vraies montagnes qui atteignaient au moins 80 à 100 pieds de hauteur, ce qui correspond à une trentaine de mètres entre le creux et la crête de la bosse, ce qui est la taille approximative d'un immeuble de 10 étages. Si vous vous imaginez en mer face à de tels monstres, ça a de quoi effrayer. Il n'y aura heureusement aucun dommage, mais ce récit va causer beaucoup de tort à Dumont-Durville, car revenu en France, il va le partager et va être considéré comme totalement invraisemblable par de nombreux scientifiques de l'époque, l'un d'entre eux étant François Arago, que vous connaissez, car vous êtes ici à l'Institut d'astrophysique de Paris, situé boulevard Arago. François Arago était un très connu astronome et physicien qui a notamment dirigé l'Observatoire de Paris. Alors, je vous parle de François Arago, car l'une de ses missions était de donner des instructions aux marins qui partaient en voyage d'exploration scientifique, et notamment à Dumont-Durville et à ses successeurs, et aux successeurs de Dumont-Durville qui vont partir dans un bateau appelé la Bonite, il écrit les lignes suivantes. Vous serez probablement bien surpris si nous vous avertissons qu'aucun de vos devanciers n'a résolu d'une manière complète les questions suivantes. Quelle est la plus grande hauteur des vagues pendant les tempêtes? Quelle est leur plus grande dimension transversale? Quelle est leur vitesse de propagation? Et il continue. La hauteur, on s'est contenté de l'estimer. Or, pour montrer combien de telles évaluations peuvent être en erreur, combien sur un pareil sujet l'imagination exerce d'influence, nous dirons que des marins également dignes de confiance ont donné pour la plus grande hauteur des vagues les uns 5 mètres, les autres 33. Le 33, vous l'avez compris, est une référence directe à Dumont-Durville. Alors, j'aime beaucoup cet extrait car il montre à quel point on a tendance à considérer comme bien connu par la science des sujets de la vie de tous les jours. C'était le cas des vagues, comme vous le voyez, il y a 200 ans. C'est encore le cas aujourd'hui. Et pourtant, les questions que mentionne François Arago ici sont encore, pour la majorité, mal connues scientifiquement. Et la raison fondamentale, peut-être la raison principale, est un souci de mesure. Il est en effet très difficile de mesurer des vagues en mer. Essayez d'imaginer, par exemple, Jules Dumont-Durville à bord de son bateau en essayant de faire une hauteur de vague. Comment est-ce qu'il a fait ça? Il était pris dans une tempête intense, son bateau bougeait dans tous les sens. Il a vu une grande vague en face de lui qui a duré quelques secondes. Et pendant ce temps-là, il a essayé d'estimer à vue l'angle entre le creux et la crête de la vague et la distance le séparant de cette vague pour ensuite, à l'aide d'un calcul de trigonométrie, en déduire la hauteur de vague. Vous imaginez bien que c'est une mesure très difficile à faire et très approximative. Et si vous me demandez s'il a oui ou non rencontré des vagues de 30 mètres de haut, je serai incapable de vous répondre. Ce problème de la mesure va durer plus d'un siècle, durant lequel les récits de marins vont se succéder. Il va y avoir de plus en plus d'indications que ces vagues énormes existent réellement, et les scientifiques vont se poser la question de leur prédiction. Mais faute de mesures fiables, le sujet va être difficilement abordable. Ce problème va être levé au moins partiellement à la fin du XXe siècle, avec l'avènement des plateformes offshore. Même si c'est un peu surprenant, vous voyez ici la plateforme de Draupner, qui est celle la plus connue dans le milieu des vagues scélérates. Elle est située en mer du Nord, est constituée de deux bâtiments, je vais vous parler de celui de gauche, et sert à contrôler un gazoduc qui passe en dessous, et pas du tout à forer du pétrole. Alors, on avance dans le temps et nous sommes maintenant à l'automne 1994. Des travaux ont lieu sur cette plateforme de gauche, au niveau du pont, et pour cela, des échafaudages sont mis en place qui arrivent à peu près au niveau des piliers jaunes que vous voyez sur cette photo, si vous le voyez. les échafaudages étant tout de même 20 mètres au-dessus du niveau de la mer. On réalise à la fin de l'automne que les travaux prennent du retard, il faut les mettre en pause pendant l'hiver, et se pose la question de qu'est-ce qu'on fait de ces échafaudages, est-ce qu'on les conserve ou pas. Le responsable de la station fait un petit calcul, il évalue que d'après ses prédictions, une vague n'atteindrait ce niveau qu'une fois tous les 10 000 ans, et ils sont donc conservés, laissés en place. Et évidemment, si je vous parle de ça, c'est que le 1er janvier 1995, une vague les atteint largement et vient mettre en défaut cette prédiction. La chance, c'est qu'il y avait, durant cette vague, au niveau de cette station, un capteur qui permettait d'enregistrer le niveau d'eau en fonction du temps. Et on a donc une preuve que cette vague est bien et bien arrivée. Vous voyez ici le relevé en question avec la hauteur d'eau en fonction du temps. Alors, la première chose qui doit vous choquer, c'est qu'une tempête en mer du Nord est quelque chose d'assez sérieux. La hauteur d'eau varie typiquement de moins 5 mètres à plus 5 mètres, donc, ce qui fait des énormes variations. Mais ce type de tempête est assez courant et pas totalement invraisemblable. Ce qui est beaucoup plus surprenant, c'est la présence de ce pic un peu après 200 secondes qui correspond à la vague énorme qui est arrivée et qui a atteint les échafaudages. Vous voyez ici qu'elle sort vraisemblablement de nulle part, il n'y a pas de signe annonciateur clair, et elle est beaucoup plus haute que ses voisines, et c'est ça qu'on appelle vraiment une vague scélérate. Alors des mesures de ce style, il y en a maintenant des centaines, voire des milliers, car les capteurs de niveau d'eau sont installés de manière routinière sur les stations offshore et fournissent des mesures de vagues en fonction du temps partout dans le monde. J'y reviendrai un peu plus tard. Et la question n'est donc pas vraiment est-ce qu'il existe des vagues scélérates, mais plutôt comment les déterminer et surtout comment les trouver sur des séries temporelles de ce style-là. On va donc maintenant se poser la question de la définition de ces objets. Une vague scélérate est une vague plus haute que ses voisines, mais il faut se fixer un seuil. Je vais vous donner ici un des critères, une des définitions possibles de vague scélérate utilisées dans la littérature. Donc un petit guide, si jamais vous voulez essayer de trouver vous-même des vagues scélérates, vous faites une mesure de hauteur d'eau en fonction du temps, vous allez trouver un signal qui ressemble à ça. Et la première étape va être de calculer une variation typique de hauteur d'eau, on appelle ça l'écart type, ce qui va vous donner une mesure de la taille typique des vagues environnantes. Deuxième chose, vous allez prendre votre signal et vous allez le séparer en vagues, ce qu'on appelle des vagues dans le milieu. C'est une succession d'un creux et d'une bosse. Vous voyez ici la première en marron, la deuxième maintenant et la troisième. Et pour chacune de ces vagues, vous allez noter la hauteur la plus haute atteinte. Et on va parler d'une vague scélérate si cette hauteur la plus haute est très supérieure à la hauteur typique des vagues et on prend un facteur 5 entre les deux. Donc on parle d'une vague scélérate si la hauteur la plus haute est 5 fois supérieure à l'écart type ou plus. Un petit exemple. On reprend le signal de Droppner. À partir de cette série temporelle, on peut en déduire le seuil à 5 sigma qui est de 14 mètres. Et vous constatez qu'aucune vague n'atteint ce niveau, sauf le pic extrêmement haut, à peu près 200 secondes, qui atteint presque 20 mètres et donc dépasse largement ce seuil. Il s'agit donc bien d'une vague scélérate. Donc maintenant, on sait définir une vague scélérate, les reconnaître. Quelles sont les questions auxquelles on tente de répondre? Il y en a deux. La première est très pratique. Imaginez demain que vous allez vous embarquer sur un trajet en mer de plusieurs jours. Comment le prévoir? Vous allez regarder les prévisions météo pour connaître vos conditions de trajet, donc notamment celles que vous voyez le soir à la télé avec les températures, le vent et les précipitations. Mais pas seulement, vous allez aussi aller chercher ce type de carte qui est une prévision de la météo en mer et qui donne une information sur la direction des vagues, c'est les flèches, et la hauteur typique des vagues, c'est le code couleur. Donc ça, c'est la carte météo, par exemple, pour demain midi, si vous choisissez d'aller faire un tour en mer. Et ce qui manque, ce qu'on aimerait bien avoir, c'est aussi une carte du même style qui donne la hauteur des vagues les plus hautes auxquelles les marins devraient s'attendre pour prévoir la sécurité de leur trajet. C'est une question qui intéresse aussi les compagnies pétrolières pour assurer la sécurité de leur installation offshore. Il est crucial de connaître les pires conditions auxquelles ces installations doivent être soumises pour les prévoir en conséquence. Alors ça, c'est une question pratique. Ce qui m'intéresse aussi, c'est une question beaucoup plus fondamentale qui est pourquoi est-ce que ces objets arrivent, comment est-ce qu'ils se forment et quels sont les facteurs qui contribuent à leur émergence dans la mer. Et vous voyez bien que c'est uniquement en répondant à cette question plus fondamentale qu'on va avoir accès à des conclusions pratiques comme celle de la prévision en mer, ce qui est assez général en physique. Alors pour répondre à ces deux questions, il y a trois approches que je vais décrire dans cette conférence, théorique, numérique et expérimentale. Alors commençons tout de suite par la première qui a été initiée au 19e siècle par Cauchy et Poisson, des contemporains d'Arago et de Dumont d'Urville, qui consiste à partir des équations de la mécanique des fluides, qui étaient connues à l'époque, s'armer d'un crayon et de beaucoup de papier et d'essayer de les résoudre pour caractériser les vagues à la surface de l'océan. Alors, ils ont fait ça dans un formalisme très différent de celui que je vais vous présenter ce soir, mais sans trop trahir leurs résultats, on peut les présenter de la manière suivante. Imaginez de l'eau dans un canal très profond, à l'extrémité duquel un piston bouge d'avant en arrière, mettant en mouvement la surface de l'eau. Il va en résulter une onde, ce qui va se propager le long de ce canal, et mathématiquement, cette onde va s'écrire en première approximation sous la forme d'une onde plane progressive monochromatique. C'est une onde dont la surface, l'élévation de surface est A, qui dépend de la position et du temps, et le produit d'une amplitude A en mètres par une fonction trigonométrique, qui va avoir une certaine période temporelle liée à la période du piston et une période spatiale, la longueur d'onde, les deux étant reliés par la relation de dispersion qui a été trouvée par Cauchy et Poisson. Alors, si on s'intéresse aux accélérates, on va suivre notre petit guide. On va prendre la hauteur d'eau en un point, disons en état égal à 0, la tracer, chercher l'écart type A sur racine de 2 et pour chacune des vagues, trouver le point le plus haut qui ici vaut A quand le cosinus vaut 1 et cette hauteur la plus haute est toujours égale à environ 1,4 fois l'écart type. On n'a donc pas de vague accélérate. Ce n'est pas surprenant. Ici, toutes les vagues sont les mêmes. Donc, il n'y en a aucune qui est beaucoup plus grande que les voisines. Il n'y a aucune raison d'avoir une vague accélérate. Alors, il se trouve qu'on sait qu'il est nécessaire d'avoir plusieurs ondes pour observer des vagues accélérates. Et on va donc un peu complexifier ce modèle en considérant non pas une onde, mais plusieurs ondes. Premier test, on va chercher maintenant deux ondes qui vont se rencontrer, l'une venant de la gauche, l'autre venant de la droite, toujours dans ce canal, et on va regarder la hauteur d'eau en un point donné, disons x égale à 0. Ici, pour simplifier, j'ai pris deux ondes de même amplitude A. La hauteur d'eau s'écrit donc comme la somme de ces deux cosinus multipliés par l'amplitude A, qu'on peut tracer de la manière suivante. J'ai tracé indépendamment les deux termes, et par la suite, on va supposer que ces deux ondes simplement s'ajoutent lorsqu'elles se rencontrent et on va donc s'intéresser à tracer la somme de ces deux courbes qui est la courbe en noir qui présente des zones beaucoup plus hautes et des vagues beaucoup plus faibles. C'est le phénomène d'interférence. De la même manière, on peut se demander est-ce que cette vague beaucoup plus haute que ses voisines est une vague accélérate. On va calculer l'écart type qui vaut A, le point le plus haut qui est atteint lorsque les deux cosinus valent 1 et qui vaut 2A et qui reste donc égal à 2 fois l'écart type, c'est donc toujours pas une vague accélérate. Cependant, on s'en rapproche progressivement, on est passé de 1,4 à 2. Et on va voir si en rajoutant des ondes petit à petit, on arrive à avoir des vagues de plus en plus hautes, voire une vague accélérate. Prochain modèle, on s'intéresse à beaucoup plus de vagues, donc j'en ai pris une, deux, maintenant on va en prendre 1000, et on va généraliser cette approche en écrivant la hauteur d'eau en un point, comme la somme de grand N vagues, avec une certaine amplitude AN qui va être aléatoire, et une période T qui va être elle aussi aléatoire, et j'ai pris ces paramètres, les amplitudes et les périodes, pour reproduire qualitativement les conditions météo qu'il y avait à Droppner, pour le transparent précédent. Donc j'ai laissé tourner ça sur mon ordinateur pendant quelques heures, et en quelques heures, j'ai obtenu ce signal-là pendant 40 ans. donc l'équivalent de 40 ans de tempête non-stop sur mon ordinateur. Donc voici les premières secondes de ce signal, les premières minutes. Vous voyez la hauteur d'eau qui varie, comme observé expérimentalement, entre plus 5 mètres et moins 5 mètres, typiquement, avec un seuil de vague scélérate qu'on peut calculer à partir de l'écart type de ce signal, qui est à 18 mètres. Ici, aucune vague ne dépasse les 18 mètres. On n'a donc bien que des vagues ordinaires. Alors, à partir de 40 ans de signal, on peut chercher le point le plus haut. C'est ce que j'ai fait. Et le point le plus haut arrive à peu près au milieu de l'échantillon, à 20 ans, et est extrêmement haut. Vous observez, vous voyez qu'ici, qu'il atteint les 22 mètres, bien au-dessus du seuil qu'on s'est donné. Et c'est donc bien ici une vague scélérate qui est très supérieure à ses voisines, qui semble arriver, comme celle du Dropner, sans signe annonciateur particulier, qui pourrait être dangereuse si elle arrivait en vrai. Donc, on est content à ce niveau-là parce qu'on a vraiment un modèle qui permet de créer des vagues scélérates d'une manière simple, simplement en superposant des ondes qui viennent de toutes les directions et en regardant ce qui se passe. Et la prochaine étape va être d'essayer, à partir de ce modèle, d'en prédire les probabilités. Pour cela, je vais vous introduire une notion qui s'appelle la densité de probabilité. Alors, on souhaite créer une figure, compiler dans une figure toutes les différentes amplitudes des vagues qui ont été mesurées pendant 40 ans de signal. Et pour cela, on va créer un histogramme avec des colonnes qui vont faire, pour mon exemple, 0,2 de large, où on va compiler toutes les données de la hauteur des vagues. Alors, plutôt que la hauteur des vagues, c'est plutôt la hauteur divisée par l'écart type qui va être intéressant, ce qui compare la hauteur d'une vague à celle de ses voisines. Vous voyez ici, en marron, sur la figure de gauche, la première vague. La première vague a une hauteur qui vaut 1,71 sigma. Et cette valeur de 1,71, on la met dans le graphique de droite, dans la colonne qui va donc entre 1,6 et 1,8, ce qui va nous donner notre première vague. L'histogramme de droite étant normalisé de manière à ce que l'air en marron vaille 1. On continue avec la deuxième vague, la troisième, la quatrième, à chaque fois étant associée à des valeurs de état sur sigma différentes et des colonnes différentes. La cinquième retombe dans la boîte entre 1,6 et 1,8, qui est donc plus haute que ses voisines. Et on continue comme ça. Et petit à petit, ce graphique de droite va se remplir avec toutes les informations sur toutes les hauteurs de vagues rencontrées dans ce signal. 100 vagues, 1000 vagues, 10 000, 100 000, 1 million. Et plus on avance, plus cette figure n'évolue plus. On dit qu'elle a convergé et lorsqu'elle n'évolue plus, elle reproduit fidèlement les probabilités d'observer différentes hauteurs de vagues. Et c'est donc bel et bien cet objet mathématique que l'on cherche à construire et à prédire. Alors, ce qui est chouette dans ce modèle-là, ce modèle de plein d'ondes qui se superposent linéairement, c'est qu'il est possible de prédire, de calculer théoriquement cette courbe à droite. Ça a été fait dans un autre contexte par Rayleigh en acoustique, et maintenant c'est appliqué au niveau des vagues dans l'océan. C'est un modèle que vous pourriez facilement calculer si vous étiez à votre niveau, là, si on vous donnait les éléments à faire. Et on peut donc prédire cette courbe. Vous voyez que la courbe théorique en bleu colle très bien aux simulations numériques sur 40 ans de tempête que je vous ai montré. Alors, ce qui nous intéresse, ce n'est pas les vagues de moyenne amplitude que vous voyez à l'écran, c'est celles de très grande amplitude, les vagues scélérates, pour lesquelles on s'était fixé le seuil de 5 sigma, donc état sur sigma est supérieur à 5. Celles tout à droite du graphique de droite qu'on n'arrive pas du tout à discerner parce que l'échelle est trop petite, les probabilités sont trop faibles. Donc pour les visualiser, on va changer l'échelle du graphique de droite, on va passer en coordonnées logarithmiques et donc représenter les puissances de 10 au lieu des unités. Vous voyez ici qu'on a un bien meilleur aperçu des petites valeurs et que, encore une fois, le modèle théorique correspond bien aux données numériques sur 50 ans. Le graphique est donc bien convergé. À partir de cette figure, étant donné que l'histogramme est normalisé, et de même pour la distribution de Rayleigh que vous voyez ici, on peut en déduire la probabilité d'avoir différentes vagues. Donc si on calcule l'air sous la courbe bleue, à l'aide d'une intégrale, on va trouver 1. C'est la probabilité d'avoir une vague quelconque. Et si on veut une vague scélérate, il faut restreindre cet air à différentes limites, et en l'occurrence, calculer l'air uniquement au-dessus de 5 sigma. L'air que vous voyez en, la petite aire que vous voyez en bleu ici, faisant ça, on calcule facilement numériquement cette aire qui vaut environ 1 sur 300 000. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que d'après ce modèle, une vague sur 300 000 lors d'une tempête est une vague scélérate. Si on considère que les vagues durent environ 15 secondes dans l'océan, ça nous fait une vague tous les mois et demi de tempête, ce qui est rare, mais finalement pas si rare que ça. On peut continuer et essayer de retrouver le seuil de 1 pour 10 000 ans qu'avait annoncé l'ingénieur Droepner. Pour cela, on va changer le seuil. C'est pas pour lui 5 sigma, c'est 6,2 sigma. Il fallait prendre en compte des vagues qui étaient encore plus grandes que des vagues scélérates classiques. Et faisant ça, on trouve une vague tous les 200 millions de vagues. Une vague scélérate énorme tous les 200 millions de vagues, ce qui correspond à une vague de Droepner tous les 100 ans. Sachant qu'il y a un jour de tempête intense tous les 100 jours de beau temps, typiquement, ça nous donne une vague de Droepner tous les 10 000 ans. C'est le critère qui avait été annoncé. Alors, fort de ce résultat, a priori, on peut s'arrêter là, parce qu'on a un modèle qui, d'une part, répond aux questions « Pourquoi est-ce que les vagues scélérates se forment ?» Eh bien, dans ce modèle-là, c'est simplement des interférences constructives en un point, c'est-à-dire qu'à un instant donné et à un moment donné, toutes les ondes qui traversent l'océan vont être aussi associées, par chance ou par malchance, à une crête et vont s'ajouter pour faire une vague très grande. D'autre part, ce modèle permet de répondre à la question « Comment on prédit les vagues ?» Ici, on a vu qu'on arrivait à les prédire, quelle que soit leur amplitude, les vagues de moyenne taille, de grande taille, quelles que soient leurs propriétés. Le problème, c'est que ce modèle est très simplifié et néglige plusieurs effets qui sont cruciaux dans l'océan. Le premier, c'est tous les phénomènes environnementaux. Ça ne prend pas en compte la présence de vent, ni les courants, ni les côtes, ni les directions des ondes qui se propagent dans l'océan. Et en ce sens-là, tous ces effets-là, on s'attend intuitivement à ce qu'ils aient un effet sur la probabilité des vagues scélérates. Ce n'est pas pris en compte ici. Autre problème fondamental, tout aussi important, ça suppose que lorsqu'elles se rencontrent, des ondes qui vont dans l'océan s'ajoutent linéairement. En effet, on a considéré la hauteur d'eau comme une somme, simplement une somme de toutes celles associées aux vagues indépendamment. Ce qui est uniquement vrai pour des vagues de petite amplitude. C'est une hypothèse qui est très bonne pour la lumière, très bonne pour l'acoustique. Par contre, pour les vagues dans l'océan, c'est très difficilement réalisable et uniquement lié aux toutes petites ondes. Un exemple, si jamais vous imaginez la surface de l'océan comme celle de gauche, avec un déferlement, eh bien, cette surface de gauche, vous ne pouvez pas la construire comme une superposition d'ondes planes, progressives, monochromatiques, car la surface est bivaluée à gauche, alors que toute la somme de droite ne peut pas vous reproduire ça. Fondamentalement, un modèle linéaire suppose que lorsqu'elles se rencontrent, des ondes n'interagissent pas entre elles, ce qui est faux pour les vagues dans l'océan, quand la hauteur d'eau commence à être suffisamment grande. Alors pour cela, on peut essayer de un peu complexifier ce modèle. Ça a été fait, je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Et on va plutôt passer à la deuxième partie sur le calcul numérique. Une autre approche qu'on pourrait consister à se dire, on connaît les équations de la mécanique des fluides qui sont difficiles à résoudre exactement. On va quand même les mettre dans un ordinateur, attendre suffisamment longtemps et pouvoir simuler des milliers de vagues de grande dont certaines de grande amplitude et en déduire les probabilités d'apparition. C'est un bon programme, mais qui se heurte à une difficulté fondamentale à ce niveau-là, qui est que les équations de la mécanique des fluides sont très lentes, très difficiles et très lentes à simuler numériquement. Et donc il faut faire un compromis entre prendre les équations exactes, mais être uniquement en mesure de simuler une vague précisément, ou prendre des équations simplifiées et être en mesure de simuler plein de vagues. Alors c'est cette notion de compromis que je vais essayer de faire passer dans cette partie. Et pour ça, on va considérer deux études qui ont été faites, qui couvrent les deux extrémités de ce compromis. Les deux datent de moins d'un an et correspondent à ce qui se fait de mieux dans le domaine en mécanique des fluides. Si vous voulez les reproduire chez vous, Il faudra acheter un ordinateur et le laisser tourner typiquement 10 ans sans s'arrêter. Ça a été fait sur des centres de calcul en bien moins longtemps, évidemment. Alors la première s'intéresse à un modèle, cherche à modéliser énormément de vagues, des millions de vagues, et a donc pris des équations simplifiées de la mécanique des fluides. Vous voyez ici un état de l'océan qui a été modélisé par ses auteurs, qui ont laissé tourner ça plusieurs semaines, et si jamais vous cherchez dans leur papier, qu'est-ce que vous allez trouver? Dans une première partie, vous allez trouver une explication des équations utilisées et du code numérique qui est implémenté dans les machines pour les faire tourner. Et dans une deuxième partie, vous allez trouver une figure qui va vous parler tout de suite maintenant, qui est celle-ci, avec une distribution de probabilité qui décrit les hauteurs, la probabilité des hauteurs de crête en fonction de leur amplitude. L'histogramme bleu va être les données numériques et les traits pleins, les différents modèles théoriques associés. Je ne vais pas m'appesantir sur cette figure, on y reviendra un peu plus tard dans un autre contexte. C'est simplement pour un peu démystifier l'intérieur d'un article de recherche. Donc ces figures-là, si vous jamais vous ouvrez cet article, vous êtes capable de comprendre certaines figures sans problème. L'autre chose intéressante qu'ont fait ces auteurs est que toutes les vagues scélérates qui ont été mesurées ont été enregistrées, ils ont pu en prédire la forme moyenne. Donc la forme moyenne de toutes les vagues scélérates qu'ils ont enregistrées est la suivante. Vous voyez le maillage numérique qui apparaît à l'écran et les couleurs qui correspondent à la hauteur d'élévation de surface. C'est une figure qui est à comparer à une photo d'une vague scélérate ou d'une grande vague qu'on peut trouver dans l'océan. Vous voyez qu'il y a des différences notables, notamment le modèle numérique qui a été ici implémenté ne peut rendre compte ni des déferlements, c'est-à-dire des rouleaux typiquement, ni des pentes très raides qui apparaissent lorsque ces objets sont rencontrés dans la nature. Donc c'est une limite et on peut se demander à quel point est-ce que ces modèles permettent de modéliser finement ces objets. Alors évidemment, ce n'est pas une critique pour cette étude, elle est très importante, elle est d'ailleurs très, très bien. C'est simplement pour vous dire que ce n'est pas la fin de l'histoire et que ça ne conclut pas le problème des vagues scélérates. Alors à l'autre bout du spectre, il y a des études au contraire qui vont s'intéresser à modéliser une vague avec toute sa complexité et avec toutes les équations de la mécanique des fluides presque sans approximation. Ce qui est pénible, c'est que ça demande tellement de temps qu'on peut uniquement modéliser une voire quelques vagues. Donc ici, vous allez voir un exemple de simulation numérique qui a été effectué sur une onde de grande amplitude qui va évoluer pour déferler, donc pour former un rouleau, puis plein de petites gouttes. Vous voyez ici une photo de un extrait de ce que vous allez voir, je vais vous montrer un film juste après. L'objectif de cette étude n'était pas vraiment d'étudier les vagues scélérates, même pas du tout, c'était de s'intéresser à l'effet du déferlement sur les échanges atmosphériques, notamment de CO2, entre l'atmosphère et l'océan, ce qui est très important pour notamment les prévisions climatiques à long terme. Mais ça montre bien ce qu'on est en mesure de faire actuellement, au niveau de la prévision fine d'une vague. Alors voilà le film. Vous voyez une vague de grande amplitude qui va commencer à former un rouleau. Ce rouleau va retomber sur la surface, plein de gouttes, plein de bulles vont être générées. Tous ces objets sont bien résolus numériquement. Vous voyez ici toutes les vagues, toutes les ondes qui se propagent à la suite de ce déferlement. Et vous allez même voir des petits cercles qui apparaissent à la fin, qui sont les bulles d'air qui sont emprisonnées dans l'eau, qui remontent à la surface et font des petits jets. Et la surface reprend son calme. Donc juste ça, c'est extrêmement compliqué à reproduire numériquement. C'est cette notion donc, que je voulais vous faire passer avec ce compromis. Donc les approches numériques complexifient les modèles théoriques, surtout le modèle que je vous ai présenté dans la première partie, mais sont face à ce compromis où bien vous simulez plein de vagues mais avec des modèles restreints, et donc vous pouvez sortir une distribution de probabilité mais vous ne savez pas à quel point, dans quelle limite est-ce que ça va être réaliste, ou bien vous simulez très bien une vague mais vous ne pouvez en simuler qu'une, donc vous ne pouvez pas en simuler des milliers et en calculer les statistiques. Évidemment, ce qu'on aimerait bien faire, c'est simuler des millions de vagues avec ce dernier modèle, ce qui est à l'heure actuelle bien au-delà des capacités de calcul dont on dispose. Mais ça a déjà énormément progressé en 10 ans et on peut s'attendre à des gros progrès dans les années à venir. Dernière partie de mon exposé, sur peut-être la chose qui vous a semblé le plus naturel après mon introduction, qui consiste à prendre les données qu'on a, les données sur des vagues réelles qu'on a en mer ou bien qu'on a en laboratoire et essayer de les caractériser à partir de ça. Alors ici, je vais m'intéresser à cette étude de 2014 qui est la plus récente qui parle de ce sujet-là. Les auteurs ont fait quoi dans cette étude? Ils sont allés vous rencontrer des industriels, leur ont demandé des données sur les capteurs de niveau d'eau qu'ils ont sur leur station offshore. Et ils ont récupéré les données sur plusieurs années d'une trentaine de stations en mer offshore que vous voyez dans les cercles bleus sur la carte. Chaque point bleu est une petite station, ce qui vous donne une idée de où est-ce qu'on trouve du pétrole dans le monde, en mer. Vous en trouvez au golfe du Mexique, en mer du Nord, en mer de Chine et en Australie. Et alors, évidemment, il y a beaucoup plus que 30 stations offshore en mer. Vous imaginez bien. Donc, une fois qu'ils ont eu ces données, ils ont essayé de les traiter pour caractériser les vagues scélérates. Alors, la première chose qui choque quand on lit leur papier, c'est à quel point c'est difficile d'avoir des données fiables à partir des stations offshore. Deux raisons pour cela. Première raison, vous imaginez une onde qui traverse l'océan. Cette onde va être fortement affectée par la présence de ces gros piliers qui soutiennent les stations offshore. Et donc, ce que vous mesurez en mettant un capteur, ce n'est pas une onde ou plein d'ondes qui se propagent dans l'océan, c'est plein d'ondes qui se propagent dans l'océan et qui sont affectées d'une manière plus ou moins inconnue par les gros piliers qui soutiennent la station. Donc, à quel point est-ce que ça modélise, ça rencontre des ondes réellement observées dans l'océan, ce n'est pas clair. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si jamais vous mettez deux capteurs de part et d'autre de ces stations offshore, vous mesurez pendant longtemps les vagues et vous essayez de trouver la probabilité d'avoir une vague scélérate, vous allez trouver deux résultats complètement différents, ce qui est un peu gênant. Deuxième problème, ces capteurs sont très pratiques pour caractériser les vagues ordinaires de quelques mètres de haut, mais ils sont peu adaptés pour des vagues de très grande amplitude. Et pour cette étude, les auteurs ont dû regarder individuellement les milliers de vagues scélérates qu'ils avaient enregistrées et ont dû en écarter 85% qui correspondaient à des défauts des capteurs. Donc c'est vraiment difficile d'avoir des mesures fiables en mer, même maintenant, c'est beaucoup mieux qu'à l'époque du Mont d'Urville, mais c'est toujours vraiment un gros défi. Deuxième point, qui n'est ni un avantage ni un inconvénient, mais plutôt une caractéristique intrinsèque de ce type de mesure, imaginez que vous avez 1000 vagues scélérates mesurées par ces capteurs-là. Chacune de ces vagues scélérates va être mesurée à une station différente, à un instant différent, donc c'est-à-dire lors d'une tempête différente. Et donc à chaque fois, ça va être dans des conditions environnementales extrêmement variées. Le vent va être pas le même, les courants vont être différents et les ondes vont se propager dans des directions différentes. Et donc compiler tout ça en une seule figure est vraiment difficile et ne fait pas beaucoup de sens. Et l'avantage énorme de ce type d'étude et l'intérêt de ce travail qui a été fait en 2014, c'est le suivant. Les auteurs se sont ont uniquement pris les données d'une seule station dans une deuxième partie de leur étude. Et sur cette station où 200 vagues scélérates ont été mesurées, ils ont reproduit durant toute la durée de l'acquisition les conditions météo qui étaient d'actualité à l'aide de programmes un peu comme les simulations d'état de mer que je vous ai montré à la fin de l'introduction. Ils ont pu obtenir la direction des vents, la direction des courants, la direction des ondes. Et à partir de tout ça, ils ont pu se dire, eh bien, est-ce qu'une vague scélérate est plus probable lorsque le vent souffle dans cette direction ou bien lorsqu'il souffle dans cette direction? Et la réponse est pas du tout. Le vent instantané fait partie des facteurs qui n'ont aucune influence visiblement sur l'apparition des vagues scélérates. Alors évidemment, le vent, c'est le facteur qui cause la création des ondes à la surface de l'océan. C'est simplement que le scénario où le vent souffle sur une onde qui devient de plus en plus grande à cause du vent et forme une vague scélérate peut être oublié. C'est pas comme ça que se forment les vagues scélérates. Et idéalement, on aimerait bien continuer ce petit type de jeu pour réussir à isoler les facteurs qui rentrent en compte dans les vaccélérates et savoir quels sont les facteurs environnementaux importants et quels sont lesquels, comme le vent, peuvent être oubliés. Le problème, c'est que leur travail s'est arrêté à une station dans laquelle, par exemple, les courants et les vagues avaient toujours les mêmes directions, donc on ne pouvait pas étudier l'effet de l'un sur l'autre. Et idem pour de nombreux autres facteurs. Et c'est une étude qui mériterait d'être poursuivie. Mais ce type de travail est extrêmement pénible à réaliser. Parce qu'il faut, les bons industriels, retrouver tous les signaux qui viennent de stations différentes, avec des capteurs différents, avec des formats de données différents. Et ce qu'il faudrait, donc, voir toutes les vaccélérates une par une pour enlever les problèmes d'échantillons, ce qui ici, sur plusieurs millions de vagues, est déjà assez pénible. Et enfin, ce qu'il faudrait faire, c'est compléter ce travail en, pour chaque station, retrouver les conditions météo qui étaient d'actualité à ce niveau-là. Ce qui peut être difficile quand vous avez des stations qui sont éloignées de la côte, pour voir comment est-ce que les corrélations rentrent en jeu ou pas, pour différents effets. Donc c'est toujours d'actualité, c'est juste que c'est pénible et il faut trouver des gens qui veulent bien le faire. Deuxième approche, qui est celle que je suis avec des collègues, qui va consister à essayer de reproduire des états de mer simplifiés en laboratoire. Alors ici, on a utilisé l'objectif est, pour avoir des mesures fiables, d'essayer de reproduire en laboratoire des états de mer simplifiés où tous les effets inconnus comme les courants, comme le vent, comme la direction des vagues vont être absents. Et on va pouvoir mesurer, comparer dans un système simple, les prédictions théoriques à des données expérimentales avec des vagues qui n'ont aucune approximation, étant des vagues réelles. Donc pour cela, on fait des expériences dans le bassin à houle de l'École centrale de Nantes, qui est représenté ici en schéma et en photo. C'est un bassin qui fait 40 mètres de long, 30 mètres de large, 5 mètres de haut. Et à une extrémité duquel vous avez un batteur fait de plein de petits pistons qui permet de créer des ondes dans toutes les directions et avec toutes les amplitudes que l'on veut. De l'autre côté, vous avez une plage qui amortit ces ondes et empêche leur réflexion. Et de cette manière, vous pouvez observer l'état de l'océan en dessous qui a été présenté lors d'une journée introductive. Ce type de dispositif est par exemple utilisé pour tester des éoliennes flottantes ou alors des systèmes de récupération de l'énergie des vagues. Alors ce qui nous intéresse, nous, c'est d'essayer de faire un modèle réduit d'un état de mer de l'océan. Et évidemment, on ne va pas faire un modèle à l'échelle 1, on ne va pas reproduire les vraies positions qui avaient lieu à Droppner parce qu'on ne veut pas une vague de 20 mètres dans son hangar, ce qui serait de toute façon impossible. Et donc on va diviser toutes les dimensions, on va travailler sur un modèle réduit, on va diviser toutes les dimensions des vagues par un facteur 100. Au lieu d'avoir des vagues qui font typiquement 5 mètres, on va avoir des vagues qui font typiquement 5 cm. Au lieu d'avoir des vagues qui s'étendent typiquement sur 100 mètres, elles vont s'étendre sur 1 mètre. Et on va obtenir le système suivant. Alors pour cela, on va commencer par mettre un mur devant la plage. De cette manière, le batteur qui émet des ondes dans toutes les directions, ces ondes vont rencontrer différents murs et se réfléchir encore une fois dans toutes les directions et au final vont peupler tout l'espace équitablement. Donc, première chose agréable, on va avoir un état de mer qui est homogène, c'est-à-dire qu'il va avoir les mêmes propriétés en chaque point du bassin. Deuxième propriété agréable, aucune onde ne va avoir une direction privilégiée. On va avoir un état isotrope. Et dernière propriété très agréable pour faire des calculs, si vous attendez 20 minutes après que le batteur soit mis en marche, les propriétés statistiques des vagues n'évoluent plus et on a un état qui est stationnaire. Donc toutes ces hypothèses sont extrêmement pratiques pour faire des calculs, donc homogènes, isotropes, stationnaires, sont clairement mises en défaut dans l'océan. L'océan n'est ni homogène, ni isotrope, ni stationnaire. Pourtant, on va modéliser ces états dans l'expérience pour voir si dans ces conditions idéales, on arrive à prédire les vagues scélérates. Et pour cela, donc une fois qu'on a cette mer, comment est-ce qu'on continue? On va mettre plein de capteurs dans le bassin. Les capteurs sont, par exemple, ce que vous voyez à gauche, des tiges qui vont être immergées partiellement dans l'eau et dont on va mesurer l'évolution des propriétés électriques, comme la résistance ou la capacité, en fonction du temps. Et ces propriétés électriques sont directement reliées à la hauteur d'eau instantanée, ce qui va nous donner la hauteur d'eau instantanée en un point de manière très précise. On a mis plein de capteurs de cette manière-là pour avoir plein de mesures. C'est toutes les croix avec un petit numéro au-dessus qui va de 1 à 23 dans le cimetière en haut. Et voyons par exemple ce qu'on observe pour une de ces sondes. Donc voici une de ces sondes. J'en ai pris une au hasard pour cette présentation. Voilà les premières secondes de la mesure où la hauteur d'eau évolue typiquement entre plus ou moins quelques centimètres. On peut calculer l'écart type pour ce signal. On peut trouver le seuil d'apparition des vagues scélérates pour ce signal qui est de 8 cm. Et ici, aucune vague n'atteint 8 cm, on n'a pas de vague scélérate. On peut revenir un peu plus tard et regarder ce qu'on observe. Si on vient plus tard, on va observer exactement la même chose. Mais l'intérêt de cette expérience est qu'on peut la laisser tourner telle qu'elle, avec exactement la condition, pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, pour ramasser un maximum de données et voir quelles sont les vagues les plus hautes qu'on peut effectivement observer. Et c'est ce qu'on a fait. Et par exemple, pour ce capteur-là, un peu plus, si vous attendez plus longtemps, eh bien vous allez observer cet extrait-là du signal avec une vague qui est bien au-dessus du seuil de 8 cm qui arrive à 12 cm. Donc ça, c'est bien un exemple de vague scélérate mesurée en laboratoire. Encore une fois, il ne semble y avoir aucun signe particulier annonciateur de cette vague et elle est beaucoup plus haute que ses voisines. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Alors, vous le savez maintenant, on fait la même chose que dans l'introduction et que dans l'approche numérique. On va calculer la densité de probabilité de ces objets, ce qui donne la figure suivante avec l'histogramme qui correspond aux données expérimentales et le trait vertical qui correspond au seuil à partir duquel on commence à parler de vague scélérate. Donc à droite de ce trait, on va voir la hauteur de la crête qui est supérieure à 5 sigma, donc on a bien une vague scélérate. Et les données expérimentales montrent bien des mesures de vague scélérate dans cette expérience. Deuxième chose, on a un état de mer simple. On va se demander, bon, est-ce que dans cet état de mer simple, le modèle le plus simple possible permet de décrire ces vagues scélérates. Et on va ajouter le modèle qu'on a vu dans la première partie, qui est la loi de Rayleigh. Et ce qu'on observe, c'est la chose suivante. Cette loi ne colle pas du tout. Mais alors, ça va sous-estimer énormément le nombre de vagues scélérates que vous allez mesurer. Expérimentalement, on en a mesuré environ 1800. Le modèle de Rayleigh prévoit qu'on devrait en mesurer en moyenne 30. Autrement dit, un modèle d'océan dans lequel les vagues se rencontrent et sans interagir entre elles, et la hauteur d'eau est simplement la superposition de toutes les hauteurs d'eau qui arrivent, sous-estime d'au moins un facteur 50 la probabilité d'apparition des vagues scélérates. Alors, on peut faire mieux que ça. On sait faire mieux que ça. Et on sait raffiner le modèle de Rayleigh que je vous ai montré dans la première partie en prenant en compte et en ajoutant les interactions entre les vagues, en tout cas les premières corrections. Ce qu'on appelle ça les premières corrections non linéaires, c'est-à-dire les premières corrections liées au terme non linéaire issues de l'interaction entre les différentes vagues lorsqu'elles se rencontrent. Et en faisant ça, on arrive à la courbe rouge qui est beaucoup mieux, qui est beaucoup plus proche, qui est le meilleur modèle que l'on a actuellement pour prédire les vagues scélérates et qui en prédit pour notre expérience en moyenne 1100. Donc on s'approche, on sait faire beaucoup mieux que le premier modèle, mais on est toujours dans une situation où on sous-estime la probabilité d'apparition des vagues scélérates, et ce, même avec les modèles les plus perfectionnés qu'on a actuellement. On a un facteur 50%, et ce, bien que les conditions expérimentales soient les plus favorables à la comparaison entre théorie et expérience. Alors voilà où on en est actuellement. Donc il y a plein de progrès qui ont été faits, mais on ne connaît toujours pas la probabilité d'apparition des vagues scélérates dans ce cas-là. On n'a pas de modèle théorique qui en rend compte fidèlement. Alors pour résumer sur cette partie expérimentale, il y a deux approches vraiment complémentaires qui sont en jeu. La première consiste à prendre les données en mer pour isoler les facteurs qui sont pertinents. On a vu que ça permettait d'enlever le vent comme facteur qui reste, qui est pertinent, mais il en reste beaucoup. Et ces expériences permettent vraiment d'isoler ceux qu'il faut prendre en compte. Et l'idée étant qu'une fois qu'on connaît le petit nombre de paramètres qui sont importants pour les vaccinarates, on peut reproduire en laboratoire ces états de mer complexes en ajoutant ces deux ou trois paramètres éventuellement qui ont été trouvés par les données en mer et les ajouter à une expérience bien plus simple à mettre en œuvre, autant au niveau expérimental qu'au niveau des mesures et qu'au niveau des statistiques pour essayer d'en déduire les probabilités réelles d'apparition des vaccinarates. Donc voilà le programme, mais on n'y est pas encore, malheureusement. Alors, ce que j'aimerais que vous reteniez de cette présentation et les points suivants. D'une part, les vaccinarates arrivent bel et bien en mer. Elles sont observées en laboratoire. Cependant, on a des idées de leur cause, ou plutôt on sait éliminer certains facteurs qui pourraient les causer, mais on ne sait toujours pas les prédire précisément. Et c'est encore une question ouverte à laquelle on espère avoir des progrès dans les années suivantes. Et ces progrès peuvent venir d'où ? Eh bien, d'une combinaison des différentes approches qui existent, à la fois théoriques, pour rajouter différents effets dans les modèles, dans les prédictions de distribution de probabilité, comme des effets rendant compte d'interactions de plus en plus compliquées entre les vagues, l'existence de courants, etc. De simulations numériques qui elles aussi ont fait des progrès énormes ces 10 dernières années, en devenant de plus en plus complexes, et de données exactes, expérimentales, venant de données en mer, qu'on pourrait traiter de manière plus extensive ou de données en laboratoire. Alors, pour vous quitter sur une note qui montre la variété des approches qui sont utilisées actuellement, voilà deux expériences qui ont été réalisées. Une expérience où vous avez des ondes qui se propagent dans une seule direction. Donc, ça a été aussi réalisé à l'École centrale de Nantes. C'était une série de mesures qu'on avait faites dans un canal très long où on peut mesurer l'évolution des propriétés des ondes lorsqu'elles se propagent dans un canal très long. Et une autre expérience à droite où vous allez voir l'évolution de la lumière lorsqu'elle se propage dans une fibre optique. Ce qui a été montré, c'est qu'en première approximation, ces deux quantités, ces deux ondes, donc les ondes à la surface de l'océan et les ondes dans les fibres optiques, évoluent de la même manière. Et première nouvelle pour vous peut-être, on peut donc avoir des ondes, des vagues scélérates aussi dans les fibres optiques. Et surtout, l'intérêt qu'on pourrait espérer utiliser les fibres optiques, des mesures plus faciles à mettre en œuvre de manière répétée, pour avoir des informations sur les vagues scélérates dans l'océan ou inversement. Alors évidemment, cette analogie est uniquement valide dans certains cas, mais ça pourrait aussi donner des nouvelles pistes d'approche. Et je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup pour cet exposé très clair. On va pouvoir passer maintenant à la partie questions et peut-être d'abord une question dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions ?
Lors d'un congrès de professeurs de physique chimie, je crois, c'était à Strasbourg il y a quelques années, on avait présenté des problèmes modélisés par des équations différentielles non linéaires. Et en particulier dans le domaine de la cosmologie avec la relativité générale, les équations d'Einstein. Et comme elles ne sont pas linéaires, j'avais osé poser la question aux conférenciers de l'époque, est-ce que dans ce domaine-là, on peut envisager également l'existence de l'équivalent de vagues scélérates ? Voilà.
Alors c'est une très bonne question. Alors déjà, premier élément de réponse, en effet, vous avez raison, les équations aux dérivées partielles non linéaires sont celles qu'on utilise pour prédire les vagues scélérates dans les modèles qui vont au-delà du modèle de Rayleigh qui est présenté au début. C'est le cas pour les vagues à la surface de l'océan lorsqu'elles vont dans tous les sens, et c'est surtout le cas dans cette situation-là que vous voyez à gauche, où l'évolution des ondes dans ce cas-là est gouvernée par une équation qu'on appelle l'équation de Schrödinger non linéaire, qui est la même équation de Schrödinger qui est rencontrée en mécanique quantique, à laquelle on ajoute un terme non linéaire, rendant compte du fait que des vagues plus ou moins hautes se propagent à des distances, à des vitesses plus ou moins rapides. Et juste avec ça, juste avec cet élément, on forme des vagues scélérates et on peut les prédire. En ce qui concerne les vagues scélérates dans différents domaines, notamment en cosmologie, il y a une théorie qui existe. Donc, je vais faire un petit détour sur comment est-ce qu'on comprend l'état de l'océan actuellement. Donc, l'état de l'océan actuellement, on le comprend comme la rencontre. Donc, les vagues sont créées par le vent. Toutes ces vagues vont interagir entre elles et en interagissant entre elles, elles vont se rencontrer et donner lieu à des longueurs d'onde différentes. Donc, quand vous avez deux vagues d'une certaine longueur d'onde qui se rencontrent, elles peuvent créer des vagues de longueur d'onde plus petite ou plus grande. Et c'est comme ça, c'est de cette manière-là que le vent qui va uniquement sélectionner, forcer une certaine gamme de longueurs d'onde, va créer des ondes qui vont interagir entre elles et qui vont avoir des longueurs d'onde au final dans l'océan qui vont de la centaine de mètres au centimètre. Ça s'appelle la turbulence d'onde et ça décrit le fait que lorsque des ondes se rencontrent, elles vont interagir et donner des nouvelles caractéristiques. Et la même chose a été proposée il y a quelques années, il y a peut-être 2-3 ans, cosmologie avec les équations d'Einstein pour dire la même chose. Donc les ondes de gravitation, lorsqu'elles se rencontrent, aussi, elles aussi sont non linéaires et les auteurs se sont intéressés à la propriété qu'ont un ensemble d'ondes de gravitation qui se rencontrent de manière aléatoire. Dans ce contexte-là, ça a été publié dans un journal qui s'appelle Physical Review Letters il y a 2-3 ans, je crois. Il faudrait aller voir si ça vous intéresse. Alors, je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus à ce sujet-là. Il y a un chercheur français qui a travaillé là-dessus, qui s'appelle, si mes mémoires sont bonnes, Sébastien Galtier. À voir. Il n'est pas très loin en plus.
D'accord. Merci. Alors, on peut prendre une question du chat, peut-être, parce que je crois qu'il y en a plusieurs.
Alors, on te demande en particulier si il y a une analogie possible sur les mécanismes de marché en finance. Est-ce qu'il y a des vagues scélérates, j'imagine, des cracks aussi.
Probablement, mais ça, c'est un sujet que je ne maîtrise pas. Donc, je ne vais pas pouvoir m'avancer là-dedans. En effet, tous les marchés financiers sont de plus en plus abordés par les physiciens, notamment à l'aide d'une théorie qu'on appelle la physique statistique, qui permet de rendre compte d'événements plus ou moins improbables. Et certains physiciens s'intéressent à appliquer ces outils-là aux marchés financiers. En ce qui concerne les vagues scélérates, je n'ai jamais entendu parler d'analogie directe, donc je ne pense pas qu'il y en ait directement, mais les outils utilisés pour étudier la finance sont de plus en plus tirés des outils utilisés en physique.
Il y a d'autres questions dans la salle ?
Vous pouvez commenter sur les deux points suivants. Est-ce que la précision altimétrique des satellites ne permet pas de repérer les vagues scélérates ou pas, puisque là, la couverture peut être sur tous les océans, à tous les temps, etc. Donc, si vous pouviez commenter là-dessus. Deuxièmement, vous avez beaucoup parlé de la statistique en un point, mais a priori, les vagues, ça se propage, il y a une vision dynamique. Qu'est-ce qu'on sait sur la propagation? Est-ce qu'il y a des choses qui ressemblent à un soliton? Enfin bon, si vous pouviez aussi commenter sur l'aspect donc dynamique de propagation.
Tout à fait. Alors, pour le premier point, c'est un très bon commentaire et la question se pose en fait, maintenant qu'on a des satellites qui se permettent d'être utilisés pour des mesures météo, est-ce qu'on ne pourrait pas les utiliser pour mesurer les vagues les plus hautes? Alors, les mesures qu'on peut faire avec des satellites vont en fait être relatives uniquement, vont donner uniquement les propriétés moyennes des vagues et vont être incapables actuellement de mesurer en un point la hauteur d'eau précisément avec une précision de 10 cm en fonction du temps. Par contre, ça va donner des informations sur les propriétés moyennes des vagues, notamment celles qui peuvent être reportées comme sur les cartes des prévisions météo en mer que j'ai montrées dans la première partie. Donc actuellement, on ne peut pas mesurer de vagues scélérates précisément avec des données satellitaires.
C'est un problème de résolution
spatiale et temporelle. Spatiale et temporelle. Parce qu'il faut aussi une résolution. Donc si on veut faire ça, il faudrait une résolution de l'ordre du mètre, voire inférieur, et une résolution temporelle de l'ordre de la seconde ou inférieure. en point, ce qui est compliqué. Deuxième question sur la propagation des vagues, sur la propagation des vagues scélérates. J'ai parlé des données en 1 point, et en effet, alors pourquoi est-ce que j'ai parlé de ça? Notamment parce que c'est ça qui est mesuré en mer, dans les stations offshore, c'est ça qui est mesuré dans nos expériences, car toutes les grandeurs sont, car l'espace est homogène, on a un système où toutes les propriétés sont les mêmes, mais il y a des cas où les propriétés évoluent avec l'espace, évoluent avec la propagation des ondes, c'est notamment le cas exactement de cette figure à gauche, où c'est un exemple de cas où les propriétés des vagues en entrée et en sortie du canal vont être tout à fait différentes. Par exemple, dans ce système-là, de mécanique des fluides, tout comme dans les systèmes de fibres optiques, il y a l'expérience suivante qui peut être mise, où vous mettez le batteur en mouvement aléatoire autour d'une fréquence donnée. Donc de cette manière-là, vous allez créer des vagues, des ondes qui vont se propager avec des fréquences assez proches. Et dans ce cas-là, on peut montrer que les ondes scélérates sont de plus en plus probables. Jusqu'à un certain point, elles vont apparaître. On parle d'objets qu'on appelle les solitons pérégrines, si ça vous parle. C'est des objets caractéristiques de cette équation de Schrödinger non linéaire dont je parlais tout à l'heure pour décrire cette expérience. Et après, vont relaxer. Et ça, c'est dû au fait que les ondes vont être non linéaires et donc leur vitesse de propagation va dépendre de leur fréquence, qui ne va pas être la même pour toutes les ondes, de leur amplitude. Plus une onde est grande, plus elle va se propager vite. Plus une onde a une petite période, plus elle va se propager vite. Et tout ça fait qu'on observe en un point plutôt qu'en un autre des vagues scélérates. Donc ça, c'est très bien compris dans ce système-là. Dans l'océan, de manière générale, on a plutôt tendance à s'intéresser à des statistiques en un point, en se disant, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les statistiques en un point, et on ne sera pas en, plutôt que l'évolution sur des centaines de kilomètres. Alors, le tsunami a surtout une cause très différente. Le tsunami va être lié, donc ça aussi on le comprend, mais c'est avec une théorie différente qui est, donc la cause va être un tremblement de terre ou une faille sismique sous terre. Et les tsunamis sont des événements qui vont avoir, sont compris maintenant comme des ondes qui vont avoir une très très grande longueur d'onde et qui, lorsqu'elles vont arriver sur les côtes, vont avoir un niveau d'eau qui va descendre puis monter et vont déferler, et c'est ça qui va poser des problèmes sur la côte. Mais c'est vraiment un cadre d'étude qui va être très différent de celle des vagues scélérates. On a des vagues scélérates sans tsunami, et le tsunami, a priori, ne favorise pas, à ma connaissance, les vagues scélérates.
Alors, d'autres questions dans la salle ?
Alors ma question c'est, est-ce qu'on sait si les hypothèses simplificatrices utilisées dans le modèle du bassin sont plutôt favorables ou défavorables à, à l'apparition de ces vagues scélérates?
Alors, a priori, elles sont plutôt défavorables parce que les données qu'on a actuellement montre que certains facteurs semblent favoriser l'apparition de vagues scélérates. Un des facteurs qui semble favoriser l'apparition de vagues scélérates, c'est lorsque vous avez des ondes qui se propagent dans une direction et que vous avez un courant qui vient dans l'autre sens. Ça mériterait plus d'études, mais on pense que ça favorise l'apparition des vagues scélérates. C'est notamment ce qui favorise les vagues scélérates dans certains lieux océaniques où des courants se rencontrent et des vagues se rencontrent de directions différentes. Et là, ce n'est pas le cas, parce qu'on n'a pas de courant. Donc à ce niveau-là, on pense que, à cause de l'absence de courant, on ne va pas avoir, on ne va pas avoir plus de vagues scélérates qu'on observerait dans l'océan. Il y a une deuxième chose sur laquelle on sait beaucoup moins de choses, c'est l'effet de la direction des ondes. Ici, on a des ondes qui se propagent dans toutes les directions. Dans l'océan, ce n'est pas le cas. Dans l'océan, les ondes ont uniquement une direction bien particulière, avec une certaine largeur, mais elles ne vont pas être isotropes. Et ça, c'est un sujet sur lequel l'influence sur l'apparition des vagues scélérates est encore inconnue.
Merci. Alors, on va prendre une autre question du chat.
Alors, une première question très rapide. Est-ce qu'on a enregistré un record de hauteur pour ces vagues scélérates?
Alors, à ma connaissance, les vagues les plus... Alors, ce que je connais, c'est la hauteur maximale entre la crête et le creux. Donc la hauteur, ce qu'on appelle vraiment la hauteur des vagues dans le milieu, qui, les plus hauts records sont une trentaine de mètres. Donc typiquement, les vagues, la vague que mentionne Dumont d'Urville n'est pas irréaliste. On arrive à en observer. Après, est-ce qu'il en a observé? Je ne sais pas. Mais c'est l'ordre de grandeur de ce qu'on arrive à avoir.
Et dans le chat, une question un peu plus technique. Dans l'approche théorique, lorsqu'il y a une superposition d'ondes planes progressives, il y a des éléments qui sont aléatoires. Donc je crois que c'est juste de la phase, mais il y a d'autres choses, la pulsation aussi, c'est ça?
Tout à fait. Bah, je vais décrire ça. Alors, qu'est-ce que j'ai pris pour ce modèle-là? Hop. Je vais revenir dessus. Donc là-dedans, qu'est-ce que j'ai fait pour faire tourner ça? J'ai fixé n égale 1000, ça, il n'y a pas de problème. L'amplitude AN, j'ai tiré à pile ou face pour chacune des 1000 vagues, avec une probabilité 50-50, donc si je prenais 10 cm ou 20 cm, pour avoir des amplitudes qui sont aléatoires. Vous allez obtenir le même résultat au niveau de la densité de probabilité si vous prenez une autre loi pour ces répartitions d'amplitude. Pour les phases, je les ai prises complètement aléatoires entre 0 et 2π, donc pas de mystère. Et pour les périodes, je les ai tirées aléatoirement entre 12 et 18 secondes, ce qui sont les périodes observées dans l'océan. Alors j'insiste vraiment sur le fait que le résultat de Rayleigh que vous voyez ici va être uniquement conditionné au fait que les vagues que vous considérez ont à peu près la même période. Ici, on a pris entre 12 et 18 secondes. Si vous prenez entre 1 et 100 secondes, vous allez probablement avoir des différences avec ça, mais tant que les périodes sont suffisamment proches, ce résultat est attendu valide pour une superposition linéaire d'ondes.
Bien, y a-t-il d'autres questions? Oui, une ici.
Merci. Est-ce que vous pouvez revenir sur les vagues scélérates, mais dans les fibres optiques? Parce qu'une vague scélérate, donc c'est une vague, vous venez d'en parler, là, ça fait 30 mètres de haut, donc c'est dangereux, il y a un bateau qui est là, il s'affole. Mais dans une fibre optique, qu'est-ce qui est dangereux? C'est le flux d'informations qui devient complètement fou, ou qu'est-ce que c'est?
Alors, peut-être que je ne me suis pas mal exprimé, il n'y a rien qui est dangereux dans une fibre optique. Hein. Au contraire, en fait, ça, c'est des expériences qui sont des expériences modèles pour essayer de comprendre la propagation de la lumière dans les fibres optiques. Alors ça, c'est un enjeu qui est vraiment important parce que un des problèmes de la propagation de la lumière dans les fibres optiques, lorsque vous êtes dans des faibles intensités lumineuses, c'est le problème de la dispersion. Donc quand vous envoyez un signal dans une fibre optique, il va s'étendre. Si vous envoyez un petit carré, il va s'étendre à cause de la dispersion parce que la lumière ne se propage pas exactement à toutes les vitesses pour toutes les fréquences à cause de l'indice de réfraction du verre qui est dispersif. Et donc, une des solutions envisagées, idéales, en tout cas théorique, qui est suggérée depuis plein d'années pour régler le problème, est d'envoyer de la lumière d'intensité suffisamment grande pour que des effets non linéaires apparaissent, c'est-à-dire que pour que non seulement la lumière se propage plus ou moins vite suivant sa fréquence, mais aussi plus ou moins vite suivant son amplitude. Exactement la même chose que les vagues dans le bassin de gauche. Et de cette manière-là, on peut former ce qu'on appelle des solitons, exactement un vrai soliton, c'est-à-dire une forme qui se propage sans se déformer. Donc ça nécessite de comprendre la propagation de la lumière dans des fibres optiques avec des intensités lumineuses qui sont grandes. Et c'est exactement ce problème-là, en le modifiant un petit peu, qui est celui étudié à droite, où au lieu d'envoyer un soliton bien propre, on envoie un signal à peu près chaotique et on obtient des pics d'intensité lumineuse à différents endroits qui sont l'équivalent des vagues scélérates, qui n'ont pas de danger, à ma connaissance, dans les fibres optiques, ni pas de danger pour les matériaux, par exemple, mais qui ont été mesurés et qui ont été mis en regard de cette propagation des ondes dans les bassins. Donc, à la base, ça part vraiment d'une question qui est optimiser le transfert d'informations dans les fibres optiques sur des grandes distances. Et après, ça a dévié un peu et on a mis en évidence ces propriétés-là.
Une dernière question.
Bonsoir. Je me demandais si les phénomènes des vagues scélérates Est-ce que ça constitue une réelle source d'inquiétude pour les entreprises pétrolières ou de transport de marchandises ou de personnes, où le phénomène est tellement rare qu'il en devient presque négligeable?
Alors non, c'est un vrai problème. Donc, par exemple, les compagnies pétrolières, alors une première preuve, les compagnies pétrolières financent des travaux de recherche sur les accélérates. Ça a été financé par des compagnies pétrolières qui ont notamment mis à disposition leurs données et subventionné l'étude, si je ne me trompe pas. Deuxième raison, les événements extrêmes, donc les vagues très hautes, sont un problème non seulement pour les plateformes offshore, mais aussi pour les pétroliers. À ma connaissance, je connais au moins un pétrolier qui s'est cassé à cause d'une vague scélérate. Une vague très grande. Et voilà. Donc c'est quelque chose qui est vraiment... ces prédictions sont vraiment demandées par les personnes du domaine.
Et alors, je crois que la dernière question va être ici.
Bonsoir. Alors, on a vu qu'on a pu éliminer pas mal de phénomènes comme le vent pour expliquer les vagues accélérates. Mais est-ce qu'on a malgré tout des pistes à creuser pour connaître la source de ce phénomène?
Alors, tout à fait. Le premier effet, j'ai peut-être pas insisté là-dessus assez, mais c'est celui qui est donné par ce modèle-là, où vous avez des vagues scélérates. Pourquoi? Parce qu'à un instant donné, il se trouve que plein d'ondes vont se rencontrer et s'ajouter de manière constructive. Donc, c'est vraiment le phénomène d'interférence constructive. Et si on devait résumer à l'ordre zéro les probabilités des vagues scélérates, on dirait que c'est à cause de ça. Le pas de chance, il y a plein d'ondes qui superposent à un instant donné, à un endroit donné, qui sont associées à des crêtes. Cependant, le calcul associé n'est pas aussi simple que ça, et ça nécessite de prendre en compte des corrections supplémentaires qui viennent à cause des interactions des vagues avec les autres vagues lorsqu'elles se rencontrent. Et donc une première vision correcte, qui est probablement celle que l'on a dans notre bassin, où on n'a ni courant, ni vent, ni problème de côte, c'est que différentes ondes se rencontrent, qu'elles interagissent de manière compliquée à cause des termes non linéaires, des équations de la mécanique des fluides, et que sous certaines conditions, cette rencontre mène à une vague scélérate. Donc c'est ce phénomène-là, mais dont la mise en probabilité nécessite des équations plus compliquées que ça.
Bien, bah écoutez, je vous propose qu'on en reste là et qu'on remercie à nouveau Guillaume pour sa conférence et toutes ses réponses aux questions. Et alors, juste avant de terminer, je voudrais faire deux petites annonces. Donc, la prochaine conférence du cycle « Une question à chercheur » aura lieu le jeudi 10 mars à l'Institut Henri Poincaré. Et il s'agira plutôt d'une question, une chercheuse, puisque la conférence sera donnée par Elisabeth Gassia et ça portera sur les statistiques. Le titre exact est « Information, incertitude et apprentissage ». Vous trouverez tous les détails sur le site de la Société mathématique de France où vous pouvez vous inscrire si vous êtes intéressé. Voilà. Et sinon, je voulais rappeler qu'ici, à l'Institut d'astrophysique, tous les premiers mardis de chaque mois, il y a des conférences qui sont ouvertes au public et que la prochaine aura lieu le mardi 1er mars à 19h30 et sera donnée par un chercheur de l'Institut qui s'appelle Henry McCracken et qui parlera des plus grandes structures de l'univers. Voilà, je vous remercie tous et toutes pour être venus ce soir et merci encore à Guillaume.
Merci à vous.